News FM, la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission en direct sur l'emploi sous toutes ses formes. Alors régulièrement dans notre émission, nous abordons la question de la formation professionnelle, de ses offres en matière d'apprentissage de métiers et de pratiques, et des possibilités de financement pour permettre d'y accéder facilement. C'est donc le cas aujourd'hui, c'est notre thème, et nous recevons deux invités pour aborder ensemble ces questions et profiter de leur expertise. En la matière, nous accueillons donc d'abord Catherine Monnier. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous.
Merci.
Sur News FM. Vous êtes directrice formation pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgoin-Jallieu. Alors merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Grenoble pour cette émission.
Merci à vous.
Et à vos côtés, Thomas Viron. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue également. Vous êtes directeur groupe formation pour la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et également directeur du campus de l'alternance.
Tout à fait.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il existe aujourd'hui de nombreux organismes qui proposent des formations professionnalisantes ou des formations en alternance. On pourrait citer, en plus de vos structures respectives, la Chambre de commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat, le Greta, hein, entre autres exemples, ou bien les centres de formation comme les Charmilles à Saint-Martin-d'Hère. Je les cite et je leur fais un petit clin d'œil puisque c'est un de nos partenaires sur des ateliers pédagogiques notamment. Voilà, chaque structure a son propre fonctionnement. Alors avant de détailler un petit peu plus comme la façon dont fonctionnent les formations du côté de la CMA ou la CCI, on va les appeler comme ça, quel conseil, d'abord, est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui hésite ou qui ne sait pas comment choisir une bonne formation par rapport à son profil? Quelles sont les questions qu'il faut se poser avant toute chose?
Eh bien, tout dépend de l'âge. Hein. Si c'est une personne qui est collégienne, enfin qui est plutôt jeune, je pense qu'il faut faire des stages. Il y a des stages de troisième qui permettent déjà de voir si on a une appétence vis-à-vis du métier. Après, quand on est un adulte, qu'on a déjà un métier et qu'on veut se reconvertir, là aussi, faire un stage pour conforter son choix est plutôt judicieux.
On peut considérer les stages comme des formations? Parce qu'on a tendance à se dire, oh, ça doit être deux choses différentes, les formations professionnelles, il y a quelque chose de plus sérieux.
Alors, oui, les stages en entreprise découvertes ne sont pas des formations, ce sont des stages relativement courts, mais qui permettent en tout cas aux candidats de découvrir un peu de l'intérieur ce qui se passe sur le métier, parce qu'on a une vision, tout compte fait, très parcellaire, hein, très, très en surface des métiers. Quand on rentre dans... chez un boucher, on voit quelqu'un mettre des bouts de viande dans un bout de papier et vous le vendre. Le métier de boucher, ça n'est pas ça du tout.
Voilà.
donc, ça permet à des candidats, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, de découvrir ça. Et l'orientation, c'est clairement un vaste sujet, celui que vous abordez. Et c'est surtout un processus assez long. L'orientation, c'est pas un diagnostic, c'est pas un médecin qui prend votre température et qui vous dit voilà, vous avez de la fièvre, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc, les conseils d'orientation ont un rôle à jouer, clairement, mais c'est un processus relativement long qui passe, comme le disait Catherine, aussi par de la découverte, c'est-à-dire des stages, c'est-à-dire vraiment aller au contact de la profession avant de prendre des décisions qui sont tout de même engageantes.
Donc, Catherine, je vous redonne la parole. Vous parliez effectivement d'abord de l'âge, en fonction de son âge. Les stages découvertes. Et puis, on peut même se dire qu'à n'importe quel âge, on
Bien
peut
sûr.
Aller simplement demander à,
Oui, on peut avoir
à visiter,
tout à fait.
Avoir un entretien.
On peut avoir tout à fait des conventions avec France Travail ou les missions locales pour pouvoir découvrir pendant une semaine, deux semaines. Donc, comme le disait Thomas Viron, le travail de l'intérieur. On peut aussi, bien sûr, assister à des journées portes ouvertes. Donc, aussi bien Thomas Viron que moi-même, on propose des journées portes ouvertes où les personnes, donc les jeunes ou les adultes qui veulent se reconvertir peuvent venir rencontrer donc les équipes pédagogiques, discuter avec eux du contenu de la formation, voilà, des conditions de travail. Donc, c'est de visiter aussi les ateliers de la formation, les laboratoires pour voir un petit peu comment ça va se passer dans la pratique, parce qu'il y a des cours théoriques, des cours de pratique. Il peut y avoir aussi de l'enseignement général. Donc voilà, c'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte. Donc nous, les centres de formation d'apprentis, on est là pour leur donner une information, leur donner aussi des pistes pour trouver une entreprise, pour pouvoir réaliser les stages ou après, plus tard, un apprentissage.
Voilà, oui, voilà, nous on les accueille. Alors effectivement, les journées portes ouvertes, c'est un événement et un moment bien particulier pour découvrir l'ensemble de l'établissement avec donc tous les métiers et bien sûr la présence des enseignants. On accueille aussi nous les collégiens et les lycéens par l'intermédiaire d'ailleurs de leur collège et des lycées notamment, hein, en petits collectifs ou même individuellement tout au long de l'année. Au-delà des journées portes ouvertes, on peut rater une journée porte ouverte. Il n'y en a pas 36 000 dans l'année. Donc c'est important de dire, et c'est pareil pour le centre de formation de la Chambre des métiers, on accueille des candidats tout le temps. Hein. Mmh. Alors sur rendez-vous, il faut que ça soit un peu organisé, hein, pour faire ça dans de bonnes conditions. Mais quand on a raté l'événement de la journée portes ouvertes, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre un an avant de découvrir ce qui se passe dans un centre de formation d'apprentis. Ou dans un organisme de formation de manière générale.
Donc là, on parlait de ces moments de découverte, peut-être plus axés sur les jeunes, sur le public jeune. Quand on est un adulte, je reviens sur la question que je posais au début, quelles questions il faut se poser par rapport à son profil, qu'on soit chômeur ou qu'on soit déjà actif dans un métier, est-ce que on peut aller à la pêche comme ça sans s'être posé aucune question, ou au contraire c'est bien de réfléchir un petit peu, est-ce qu'on a besoin d'une formation ou pas?
Alors oui, bien sûr qu'il faut réfléchir. Il y a plusieurs façons pour conforter son projet professionnel. À la Chambre de métiers de l'artisanat, il y a aussi des conseillers évolution professionnelle qui peuvent être des interlocuteurs pour justement travailler ce projet. Aussi nous, en tant que CFA, on peut aussi, donc comme je disais précédemment, répondre aux questions par rapport au contenu de la formation, par rapport à la pertinence. Avec l'expérience aussi de la personne, son parcours, est-ce que c'est judicieux d'aller dans cette voie, est-ce que par exemple la personne peut aussi, comme pour les collégiens, venir en observation pour voir un cours, pour parler avec les professeurs, parce que bon, c'est vrai qu'on peut se faire une image un peu idéalisé du métier, que ce soit en cuisine, en coiffure ou en esthétique. Parfois, on voit que le côté un petit peu glamour du métier ou le côté paillette. Mais après, comme le disait Thomas Viron, il y a une réalité du métier. Donc là, il faut en être conscient. Et avec des interlocuteurs comme les conseillers d'évolution professionnelle, les professeurs, les responsables aussi de pôle, qui sont les personnes qui gèrent les pôles de formation et qui ont aussi une vision du métier. Je pense que déjà on peut avoir aussi une bonne idée. Après, il y a différents aussi. Il faut envisager les moyens de financer cette formation.
On va y revenir. Oui,
Suivant les moyens qu'on a à sa disposition, ça permet aussi de voir vers quelle solution on peut s'orienter.
Oui, parce qu'il y a des formations qui peuvent être très chères parfois.
Oui, alors en formation continue, effectivement, ça dépend aussi bien sûr de la durée et du niveau recherché. Pour valider un choix, alors on peut aussi passer par un bilan de compétences d'ailleurs, hein, il y a des outils qui sont là pour ça, mais je crois que c'est à la croisée de trois chemins. Il faut s'interroger sur son intérêt, sa motivation, quand même essentielle. Il faut aussi s'interroger et peut-être travailler sur ses propres capacités, ses aptitudes. Il y a des choses, je sais personnellement, que ça serait pas une très bonne idée que je m'aventure sur ces métiers-là, parce que je manque vraiment d'aptitudes de base. Hein. Donc ça va être très long, voire impossible pour moi d'atteindre le niveau requis. Et puis le marché, c'est-à-dire les perspectives du marché. C'est à la rencontre de ces trois chemins qu'on peut trouver non seulement un métier qui va nous intéresser, sur lequel on va être en capacité d'évoluer parce qu'on a les capacités, les aptitudes de base, pardon, et puis c'est un métier qui a de l'avenir, entre guillemets. Voilà, c'est trois points-là, quand on arrive à y répondre, on a de meilleures chances de ne pas se tromper. Et puis on peut changer d'avis, hein, surtout quand on est jeune. Mais alors quand on est avancé dans sa carrière, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais on peut changer d'avis. On sait aujourd'hui que pratiquer le même métier pendant 45 ou 50 ans, j'ose à peine le dire, au moins 45, ça va être compliqué. Hein, le monde évolue et les gens ont aussi envie de changer, hein, ce qui est légitime.
Alors, parlons maintenant un petit peu plus de ce que vous proposez au sein de vos deux chambres. Donc, la chambre des métiers et de l'artisanat, Catherine. Alors, je l'ai dit au tout début, hein, vous venez de Bourgoin-Jallieu, et il y en a une sur Grenoble. On n'est pas obligé d'aller à Bourgoin-Jallieu pour rencontrer des conseillers.
Alors, des conseillers, bien sûr, il y en a. Il y a un site chambre de métiers à Grenoble, à Bourgoin-Jallieu, à Vienne. À Lyon, enfin, on est sur tous les départements. La chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 26 sites qui peuvent accueillir donc des personnes qui souhaitent poser des questions, comme vous le disiez, pour se reconvertir ou choisir un métier. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller à Bourgoin. En fait, notre centre de formation physique, il est à Bourgoin. Donc on on accueille à peu près 1300 personnes, dont 1260 apprentis.
C'est-à-dire sur l'année ou par période
de sur l'année, voilà, ouais. sur l'année, donc 1260 apprentis, une trentaine d'adultes donc qui se forment, voilà, qui se sont reconvertis, plus des publics avant l'apprentissage qui viennent aussi se finaliser leur projet et se remettre à niveau. Donc on propose 45 formations sur les métiers traditionnels de l'artisanat, l'automobile, la mécanique, la peinture, la carrosserie, la restauration, cuisine-service, les métiers de bouche, donc pâtisserie, boulangerie, charcuterie, traiteur et boucherie, la beauté, coiffure esthétique, et on a aussi un cinquième secteur qui est le tertiaire, la vente, le commerce et la gestion. Voilà, donc on propose une large palette de formations. Et c'est vrai que parfois, un jeune qui rentre chez nous, par exemple, qui peut faire 2 ans CAP pâtissier, par exemple, peut ensuite se dire, bah, tiens, je ferais bien aussi un CAP cuisine en 1 an. Donc c'est possible, hein, puisqu'on ne repasse pas l'enseignement général, on se focalise sur le professionnel. Ou bien dire, bah, tiens, je voudrais améliorer mes compétences en vente et je vais faire un CAP équipier polyvalent du commerce. Donc l'avantage, c'est de proposer des passerelles, d'avoir une certaine souplesse pour que notre ambition, c'est que la personne qui vient se former chez nous puisse aller le plus loin possible, hein, dans son souhait de se former. Et donc c'est pour ça qu'on propose des formations du CAP, des formations de niveau bac, jusqu'à des niveaux bac plus 2.
D'accord. Alors j'imagine que toutes les informations sont disponibles via Internet,
oui, sur le site de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on peut trouver, voilà, toutes ces informations sur toutes nos formations, voilà, du CAP au niveau Bac plus 2.
On évoquait donc la possibilité pour des personnes de prendre rendez-vous pour venir rencontrer quelqu'un de la CMA ou de la CCI. On peut prendre des rendez-vous par Internet ou il faut forcément passer par le contact oral, vocal, le téléphone ou
Alors pour prendre des rendez-vous, c'est bon, on peut envoyer bien sûr une demande par Internet. On peut aussi appeler, on a un numéro unique, le 3006. Qui permet ensuite, voilà, à la personne de donner son motif d'appel et d'être ensuite, accueillie ou dirigée vers la personne de son choix, suivant l'objectif de son appel.
D'accord. Thomas, donc du point de vue de la Chambre de commerce et d'industrie, Catherine a déjà listé quand même pas mal de formations professionnalisantes. Vous avez des formations complémentaires. On retrouve les mêmes formations ?
Alors, voilà, on retrouve vraiment la même liste. Donc, je ne vais pas la reprendre. Hein, on retrouve la même liste sur donc Grenoble hein, et son agglo. Enfin, le site est à Grenoble, hein, sur le campus de l'alternance et sur la commune de Grenoble. Auquel on va rajouter l'énergie et le bâtiment, c'est-à-dire les métiers du bâtiment, l'énergie. Et puis j'ai la chance de diriger le campus de l'alternance qui couvre aussi l'Institut supérieur de la construction où on forme de l'encadrement intermédiaire dans le bâtiment, hein, des coordinateurs de travaux, chefs de chantier, etc. Et puis l'Institut supérieur du tertiaire qui forme sur le tertiaire, donc sur la vente, l'administration, la gestion, mais plutôt à partir du BTS et au-dessus. Et là, c'est pas tout à fait le même site, puisque c'est à côté de la gare, dans le bâtiment principal de la CCI, hein, juste derrière la gare. Et après, effectivement, il y a un numéro de téléphone qui permet de prendre rendez-vous, d'organiser une visite. Il y a la possibilité de le faire sur Internet. Sur notre site, il y a aussi une visite virtuelle en 360 degrés de l'établissement là qui permet de voir. Alors moi, j'invite quand même les gens à venir voir en vrai, hein, mais voilà, si les gens sont un peu éloignés ou pas disponibles, ils peuvent aussi déjà se faire une idée de à quoi ressemble ce magnifique campus de l'alternance.
Qui se trouve alors où exactement ?
Dans le sud grenoblois, c'est-à-dire pas loin de Carrefour et Chirol, mais c'est sur la commune de Grenoble.
D'accord.
C'est un campus qui fait 5 hectares, arboré, qui est vraiment magnifique, et où tous les métiers sont... Donc les ateliers, les laboratoires sont sur place, hein, sont sur ce site-là, avec un hébergement, je tiens à le dire, puisqu'on a aussi... pas mal de jeunes et de moins jeunes qui viennent d'un peu loin. Et nous, on leur déconseille de faire, je sais pas, 100 km aller-retour tous les jours. Au niveau écologique, c'est pas génial. Et en termes de fatigue, ça l'est pas non plus. Donc on peut les héberger sur site. Voilà. Et vraiment, le campus est à découvrir. Ça, au-delà de la visite de 360 degrés, j'encourage à venir nous rencontrer. Et donc je rajoute sur les métiers, on a le secteur du bâtiment, c'est-à-dire aussi bien plombier, électricien que charpentier, menuisier, maçon, carreleur, à peu près la totalité des métiers du bâtiment, seconde œuvre et grosse œuvre.
En parlant un peu plus,
je voulais ajouter que effectivement nos locaux étaient à Bourgoin. Toutefois, on a aussi une stratégie de développement de CFA entre guillemets hors les murs, c'est-à-dire sur les 12 départements de la chambre de métier. On peut aussi se former en alternance dans les chambres de métier, notamment sur des titres qui nous est propre à la chambre de métier, notamment les brevets de maîtrise. En coiffure, en pâtisserie, boulangerie ou esthétique, et sur le ADA, assistant de dirigeant d'entreprise artisanale. Donc voilà. Donc comme effectivement on était physiquement sur Bourgoin, l'objectif c'est de s'affranchir de la géographie et de pouvoir proposer ces titres-là en apprentissage dans tous les départements Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a aussi une solution qui peut être intéressante pour des adultes qui veulent se former, c'est la formation en situation de travail, qu'on appelle la FEST. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité de déléguer l'enseignement qui serait fait en pratique, notamment... dans le domaine professionnel à Bourgoin-Jallieu, à l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui devient formatrice, bien sûr accompagnée par ce qu'on appelle des tiers facilitateurs, des professeurs qui veillent à la montée en compétences de l'apprenti. Et ça se fait majoritairement dans l'entreprise. Donc ça peut intéresser des adultes qui ne souhaitent pas forcément se retrouver avec des jeunes de 15-16 ans, avec une pédagogie... je dirais encore assez qui accompagne bien le jeune public puisqu'il sort du collège. Donc ça leur permet de se former principalement en entreprise. Il peut y avoir des temps de regroupement à l'EFMA et donc voilà, de monter en compétences tout en restant au sein de leur entreprise. Voilà. Et bien sûr d'accéder au diplôme.
D'accord. Alors, parlons un peu plus des publics. On l'a dit au début de l'émission, la formation, dans l'absolu, ça peut concerner tout le monde, qu'on soit jeune ou moins jeune. Est-ce que, malgré tout, le gros des tranches d'âge, c'est quand même davantage les jeunes parmi tous ceux que vous recevez
sur l'alternance, sur l'apprentissage, oui. C'est certain. Hein. On va, d'une certaine manière, évacuer la formation continue courte qui se fait pour des salariés d'entreprise, etc. Où là, on en a beaucoup, mais on parle de formation qui dure 2, 3 jours, 5 jours. C'est essentiel pour développer les compétences. Mais je pense que le cœur du sujet, c'est vraiment la formation en apprentissage. Et donc là, on s'adresse à un public prioritairement jeune, 16-30 ans. Et pour être clair, c'est plutôt 16-20, hein, quand même très très majoritairement, voire 15-20 d'ailleurs parfois. Donc oui, c'est un public jeune. Je lisais ce matin un bout de rapport, je crois, produit par le MEDEF, mais toutes les sources sont à peu près identiques là-dessus. On a une population de 20-24 ans qui, à 16%, est ni en emploi ni en formation. 16%, c'est énorme au niveau national. Donc ça veut dire que, et je ne dis pas que la solution c'est l'apprentissage, mais en tout cas, l'apprentissage peut vraiment permettre à ces jeunes candidats de répondre aux deux, en l'occurrence. Ils vont être en emploi et en formation. Parce que c'est un peu la magie de l'apprentissage, c'est qu'on est en emploi, c'est un contrat de travail, en bonne et due forme, un CDD, sur la durée de la formation, et c'est effectivement une formation diplômante, en l'occurrence. Donc, notre public cible n'est pas juste uniquement ces 16%, hein. Public cible, c'est les collégiens, les lycéens, mais les jeunes suivis aussi, effectivement, par des structures comme les missions locales. Ça peut être aussi, et peut-être qu'on a du mal parfois à toucher ce public-là, les décrocheurs, y compris les décrocheurs universitaires, hein, de première année ou deuxième année universitaire, qui sont très nombreux, qui passent un peu en dessous des radars, ils sont plus suivis par les conseillers d'orientation, etc. C'est bien dommage, parce que ils ont 18-20 ans, ils ont besoin de trouver des solutions d'avenir, et ça passe en France, en tout cas, par la formation diplômante, j'en suis persuadé.
Alors, on pourrait effectivement développer une émission sur la question des jeunes, ces 16%, ces fameux 16%. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais peut-être juste, puisque vous parliez de cet article du MEDEF, est-ce qu'ils évoquent les raisons de cette errance des 16%? Est-ce que c'est parce qu'ils manquent d'informations, donc ce ne sont pas les formations qui arrivent jusqu'à eux suffisamment, ou est-ce que c'est qu'ils n'ont plus envie, qu'ils sont découragés, et du coup c'est plutôt de leur responsabilité à eux?
Alors, il y a probablement plein de raisons, mais dans cette population-là, on a énormément de décrocheurs. Il y a les décrocheurs officiels, hein, ceux qui sont au lycée et puis que le lycée ne voit plus, que l'éducation nationale ne voit plus. Il y en a qui décrochent beaucoup plus tôt, dans leur tête du moins, hein, qui sont peut-être encore au collège, mais qui ont décroché, et qui arrivent à se convaincre, malheureusement, qu'ils, parce que nous on l'entend, Catherine et moi on l'entend régulièrement, qu'ils ne sont pas faits pour l'école. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Une fois qu'ils ont bien ça ancré dans la tête, eh bien ils sortent du dispositif qui peut les accompagner vers... Le diplôme ou le titre, la qualification et l'emploi. Donc c'est cette population-là. Avant tout, il me semble, de décrocheurs. Alors il y a aussi parmi ces 16% des jeunes qui ont obtenu un diplôme et qui n'ont pas exercé suite à l'obtention de ce diplôme pour des raisons X ou Y, hein, et qui sont suivis éventuellement par des structures. Les missions locales sont assez présentes sur le sujet. Mais je pense que le gros des troupes, j'ai pas les chiffres exacts, mais sont des décrocheurs d'une manière ou d'une autre du système collège, lycée, et potentiellement d'ailleurs la première année en tout cas universitaire.
Pour continuer donc sur les publics et les formations, est-ce qu'il y a des formations qui sont les plus demandées et est-ce que ce sont les plus intéressantes finalement, celles qui offrent les plus d'opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les deux?
Alors, nous, c'est vrai que on a énormément de demandes dans la mécanique, maintenance mécanique, beaucoup de demandes dans la coiffure de la part des jeunes, et l'esthétique. Alors, ce sont aussi des métiers en tension au niveau des entreprises, hein, qui recherchent leurs collaborateurs. Avant, c'est vrai que la coiffure, l'esthétique n'étaient pas des métiers en tension. Maintenant, ce sont des secteurs qui n'arrivent plus forcément à recruter des collaborateurs. Parce que malheureusement, des personnes sont formées, enfin, on forme des apprentis, et puis au bout de quelques années, ces apprentis quittent le secteur. Donc voilà, là aussi, c'est un fait. Donc ensuite, oui, dans les métiers très demandés aussi, où les entreprises ont du mal à recruter, c'est les métiers de la cuisine. Cuisine et beaucoup services aussi, puisqu'il y a un gros déficit de personnel. J'entendais hier une émission avec Monsieur Marx, restaurateur, qui disait que après le Covid, il y avait 150 000 personnes qui étaient parties du secteur de la restauration et qu'actuellement, il y avait 200 000 postes qui restaient vacants dans le secteur de la restauration. D'où, pour nous, l'enjeu de former, de bien former des apprentis dans ce secteur, que ce soit en cuisine ou en service.
Oui, l'offre et la demande, malheureusement, se rencontrent pas très bien. Non, la question que vous posiez était sur les secteurs les plus demandés par les jeunes. Mmh. Effectivement, clairement, l'esthétique, la mécanique, sur les métiers du bâtiment, plomberie, électricité, plus que les autres. La vente aussi, on s'aperçoit que la vente attire beaucoup. Après, on a pâtissier, chocolatier, tout ça, oui. ça attire. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce sont dans ces secteurs-là qu'il y a le plus de recrutement? Et ce qui se passe, c'est effectivement ce que disait Catherine Monnier, on a un déficit de candidats, en revanche, sur des métiers, notamment les métiers de la restauration, mais les métiers... De service à la personne, on voit bien que sont des métiers qui sont en grande tension et ça va pas aller en s'améliorant. Il y a eu des chiffres qui ont été annoncés, je crois, ce matin par la presse, qui montrent que il y aura une population qui vieillit et de moins en moins de personnes actives pour s'en occuper, or pour payer les retraites aussi, hein, mais pour s'en occuper. Donc il y a des tensions extrêmes qui sont en train de se construire autour de ces métiers-là. Et il y a un problème, alors je ne sais pas, d'attractivité ou peut-être juste de connaissance. Les jeunes et les moins jeunes ne connaissent peut-être pas ces métiers. Donc il y a un vrai travail à faire pour essayer... de matcher, de faire correspondre l'offre et la demande, on va dire, hein, pour faire court. Mm-hmm. Sur l'énergie, c'est pareil. Il y a vraiment une demande très très forte. Il y a beaucoup de compétences nécessaires maintenant dans les métiers de l'énergie et c'est peut-être moins visible que certains autres métiers qui sont très très identifiés, serait-ce que par les médias. Hein, voilà. On voit des pâtissiers, des cuisiniers à la télé, des spécialistes de l'installation des systèmes énergétiques, on en voit moins. Hein.
C'est moins vendeur pour les émissions.
C'est moins vendeur, exactement.
Comme exactement. Le meilleur chef.
Voilà. Et le service à la personne, c'est pareil. Voilà. Ouais. Ou service tout court dans la restauration, qui attire très peu, c'est pareil. Ce sont des métiers de relations clients qui sont exceptionnels, hein, qui sont d'abord très utiles, exceptionnels, mais qui attirent très peu aujourd'hui.
On va faire une pause musicale, puisqu'on arrive à mi-chemin de notre émission d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle, si vous Vous êtes arrivé en cours de route, que vous êtes bien calé d'abord sur le 101.2 News FM. C'est l'émission La Voix de l'Emploi. Et on parle de formation professionnelle et d'alternance avec nos invités. On se retrouve juste après la pause musicale. Et notamment, on va parler, bah oui, des financements, des aides et des financements pour pouvoir accéder à une formation. À tout de suite. We got pounds all on the counter, in the spot watching the cameras. I ain't never scared to take a risk, I know life is a gamble. Can't believe they turn their back on me, they left my life in shambles. I got money on, they'll be happy for me, they rather see me in shambles. Starting to guess I can't go back, 50 million in my average. Used to work that kitchen cabinet, playing the block they used to laugh at. Now my money grabbing, back then they were laughing. Now my money grabbing, my grandma, what else she want from me? She ain't getting no young niggas acting like they wish you. Turn your back now, put them on. Like the coldest nigga ever, I got permanent pneumonia. There was times I needed help, I had to do it on my own. I ain't crying, made me strong. Fuck a nigga, I work my phone. They got job when we was young, for 15 years, they done been gone. I made sure I held their lawyer fees, determined to bring them home. They was hoping they'd take me out, but I had made it through the storm. I'm like, shout out to my cousin, dog, he right there, ain't he had a car? Yeah. Had to cut my brother off, I can't believe you broke the law. That shit really did something to my head. Okay, got all of this money piling, Lord, I want them ball forever. You know I could really use your help, yeah. Thousand on the tractor trailer, shout out to my cousin dog. I couldn't have did it by myself, yeah. Okay, time and time again, I gave you last chances. Love life in the end, at least my pack landed. Tracking the trailer, shout out to my cousin dog. I couldn't have did it by myself, yeah. Get all the pounds you built for, they touching the clip up. The broski represented itself, yeah, beat the fans, he have a lawyer. Soon as they touching the airport, we dug in the task force. Brussie can't wait till he see Alabama like Travis Barker. Pops got security, I'm 12, I'm rocking with me, Travis Hunter. Had zero to bear and file, and I get allowances to my mama. From the projects to loading up a PJ for Victor Fanning. Since brushing the stone dead, man, they don't think this talent. Can't believe my cousin down. Can't believe you took the stand. Can't believe my hood and all. There's a couple niggas still shake his hand. Wanna make little Snoop a highlight tape, thank God he shut his hand. Got a thousand of them on the track, the trailer truck, they saw before they land. Soon as they touch that hotel trap out of rooms. Try to win pay to get a face beat, the Metro bone. Posting weed on story, you lucky the feds ain't tuned in. I was acting like you know shit. She ain't even stole shit. Got all of them money piling, Lord, I want them ball forever. You know I could really use your help, yeah. Thousand on the track, the trailer, shout out to my cousin dog. I couldn't have did it by myself, yeah. Okay, time and time again, I gave you last chances. Love life in the end, at least my pack landed. On a track in the trailer, shout out to my cousin dog. I couldn't have did it by myself, yeah. La Voix de l'Emploi, c'est sur News FM. Et oui, vous écoutez La Voix de l'Emploi sur News FM. Notre sujet aujourd'hui porte sur la formation professionnelle et l'alternance. Nos invités sont Catherine Meunier de la Chambre des métiers de l'artisanat de Bourgoin-Jallieu et Thomas Viron pour la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et le campus de l'alternance. Alors, on reprend là où on s'était arrêté et voilà la question des financements. Parce que effectivement, faire une formation, c'est intéressant. Souvent, ça intéresse, ça donne envie, ça, quand on voit certains intitulés de formation, certains contenus. Mais je le disais, voilà, il y a des formations parfois qui peuvent être un peu chères, d'autres au contraire qui ne coûtent absolument rien. Donc, voilà, faites-nous un petit topo, s'il vous plaît, tous les deux, sur l'accompagnement et au financement, justement. Donc, comment ça se passe qu'est-ce qui peut être en général, est-ce qu'on essaie de faire en sorte que le candidat n'aura rien à payer ou voilà, comment ça se passe?
Alors l'apprentissage est gratuit pour le
donc déjà voilà
pour la personne qui veut se former en apprentissage. Donc faut savoir que l'apprentissage ça va donc c'est accessible à 15 ans une fois qu'on a fait la troisième jusqu'à 29 ans enfin 30 ans, il faut signer le contrat avant 30 ans. Toutefois, il y a des possibilités où on peut signer un contrat d'apprentissage après 30 ans, c'est-à-dire quand la personne est en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge, ou sportif de haut niveau, ou si elle a un projet de créer ou de reprendre une entreprise. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet un petit peu d'élargir les possibilités. Donc l'apprentissage est gratuit puisque ce sont les OPCO, les opérateurs de compétences qui financent la formation. Donc une formation à un niveau de prise en charge, suivant la branche professionnelle de l'entreprise. Donc un apprenti, un coût contrat, donc ça donne notre chiffre d'affaires. Après, il y a la formation continue pour adultes, où là, effectivement, il peut y avoir différentes sources de financement. La personne peut se reconvertir grâce au dispositif de transition pro, ou bien faire appel au CPF, ou aussi payer en partie, tout ou partie de sa formation. Voilà un petit peu, enfin voilà, c'est assez raccourci parce que ça peut être assez complexe, mais. Voilà, donc.
D'accord. Du point de vue de l'alternance, là, je me tourne plus vers Thomas, puisqu'en tant que directeur du campus de l'alternance, l'alternance, donc, il y a des contrats qui sont passés. Hein, la personne en formation, j'allais dire le jeune.
C'est oui, moins réducteur. De 30 ans s'il est en apprentissage.
Ils reçoivent une rémunération. C'est l'entreprise qui les rémunère ou
alors,
ça passe
voilà,
par un autre
c'est,
système
c'est vraiment un système intéressant. L'apprentissage, tout d'abord, c'est effectivement préparer un diplôme qui est le même diplôme généralement qu'on trouve dans l'éducation nationale dans un lycée, qu'on pourrait préparer en temps plein sur une période de 2 à 3 ans hein, dans un lycée. Là, on va en 2 et 3 ans, dans la même durée. On va préparer le même diplôme en passant à peu près la moitié du temps dans un centre de formation et l'autre moitié en entreprise. Okay ? Mmh. Et ça, c'est le contrat d'apprentissage, contrat d'alternance, mais on va parler essentiellement de contrat d'apprentissage. Et là, la particularité, c'est que l'apprenti ne paye pas sa formation. Ça veut dire qu'elle ne coûte rien. Elle coûte cher, en l'occurrence, hein, mais elle est payée par les pouvoirs publics. Donc, ne paye pas sa formation. Et il est rémunéré, effectivement, par son employeur, puisqu'il passe à peu près la moitié de son temps en entreprise, et le contrat d'apprentissage, enfin, l'apprenti est rémunéré sur une base qui est en dessous du SMIC pour les plus jeunes, hein, bien sûr, hein, mais c'est une rémunération, un salaire, hein, sur toute la durée de la formation. Donc non seulement la formation n'est pas payante, mais en plus on est rémunéré, pas juste pour venir en formation, mais pour aussi être en entreprise.
Oui,
puisque,
travailler aussi.
Voilà, on travaille 35 heures par semaine. Hein, c'est un rythme qui est relativement soutenu, avec 5 semaines de congés, etc. C'est un rythme soutenu, il faut le souligner. Et l'entreprise bénéficie à aujourd'hui, à cette date en tout cas, d'un certain nombre d'aides, de primes, pour la motiver pour recruter des apprentis et puis parce que c'est un vrai job hein, de signer un contrat d'apprentissage et d'accompagner un apprenti sur 2 ans c'est un vrai investissement pour l'entreprise. Donc aujourd'hui il y a des primes et des aides aux entreprises qui sont significatives hein, qui permettent d'amortir un peu le coût de l'emploi, puisque il y a un salaire au bout, quand même. Exonéré, etc., mais un salaire tout de même.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'alternance, c'est la meilleure forme de formation ?
Alors, sur les premiers et deuxièmes niveaux de qualification, c'est-à-dire sur les CAP, les bacs pro et les brevets professionnels, on n'est pas obligé de le dire, on peut même l'affirmer, parce que la valeur ajoutée de l'apprentissage en termes d'insertion professionnelle, est flagrante. Je crois qu'on est généralement entre 15 et 20 points de plus, hein, 20% de plus de chances d'avoir un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation que si on suit la même formation en temps plein dans un lycée. Donc c'est très significatif. Et en plus, on est payé pour le faire.
Alors, moi, je voulais dire aussi que bon, l'apprentissage, effectivement, c'est une voie très intéressante puisqu'on est formé et on est rémunéré. Après, on se rend compte que tous les jeunes, notamment, ne sont pas forcément mûrs pour l'apprentissage, parce que, comme le disait Thomas Viron, c'est très exigeant, c'est 35 heures par semaine en centre de formation, 35 heures en entreprise, il n'y a plus les vacances scolaires, donc voilà, parfois certains jeunes ont du mal la première année à se faire à ce rythme, c'est fatigant. Donc, d'où parfois des ruptures, hein, il faut parler aussi des ruptures de contrat. Ça existe. Mmh. Et donc voilà, il faut pas non. Enfin, je pense que l'alternance effectivement est un moyen de se former très intéressant. Après, tout le monde n'est pas forcément au début un bon sujet pour l'alternance. En revanche, au bout de peut-être après le CAP pour des formations niveau bac, la personne qui a commencé par exemple qui a fait son CAP dans un lycée professionnel peut tout à fait se dire bah tiens maintenant ça va mieux, j'ai envie vraiment de m'impliquer plus dans l'entreprise et d'avoir vraiment un pied dans la vie active et donc voilà il va se dire bah tiens maintenant ça y est je suis mûr pour l'apprentissage. Alors, il faut savoir aussi, Thomas parlait des aides. Donc, une entreprise de moins de 250 salariés peut toucher 5 000 euros donc, d'aide, hein, pour compenser le temps, l'investissement qu'il va passer pour faire monter la personne en compétences. Il y a aussi des aides pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, oui. Voilà, quand une entreprise, ça peut aller, je pense, 3 ou 4 000 euros. Voilà. Et puis, nous aussi, centre de formation, on peut recevoir des aides pour des adaptations pédagogiques pour mieux accompagner les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Alors, on parle de l'alternance, et là, forcément, le monde de l'entreprise est directement concerné, puisque ce sont les partenaires privilégiés sur ce type de formation. D'une manière plus générale, quand les entreprises ne sont pas obligées, elles vont avoir des demandes, mais elles s'inscrivent pas dans un programme, dans un contrat, comme l'alternance. Est-ce que le monde de l'entreprise joue bien son rôle aujourd'hui en France, une question assez vaste, assez ou sur un grand débat. Comment vous sentez cette prise de cette responsabilité hein, des entreprises et le rôle qu'elles jouent face à la formation?
Bah, c'est vrai que dans les métiers de l'artisanat, un artisan sur deux va monter son entreprise et est issu de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, donc on l'a dit, est une voie de réussite. Et puis aussi, ça, non seulement pour décrocher un diplôme, mais pour devenir chef d'entreprise. Donc nous, les artisans, c'est dans leur ADN. Hein, c'est comme la chambre de métier, son ADN, c'est faire naître les passions chez les jeunes, faire monter les salariés en compétences pour pouvoir eh bien répondre aux besoins de l'entreprise. Donc voilà,
c'est la transmission aussi.
La transmission, voilà, quand je dis c'est dans leur ADN, quand on interroge les chefs d'entreprise et les artisans, ils nous disent voilà, moi si je prends un apprenti, effectivement, c'est parce que je vis un métier, je vis une passion et je veux transmettre. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on est plutôt je dirais soutenu par le milieu de l'artisanat.
Voilà. Et du point de vue alors davantage de l'industrie,
oui. Alors l'industrie et les services ont évolué. Je pense qu'il y a une grosse culture de l'artisanat dans les métiers de l'apprentissage, dans les métiers de l'artisanat, c'est certain. Depuis très très longtemps. Les métiers du bâtiment, les métiers, on parlait de la coiffure tout à l'heure, les métiers de bouche, la restauration passent par l'apprentissage pour former. Donc ça fait vraiment partie de leur culture. C'était un peu moins le cas dans le tertiaire et peut-être moins le cas aussi dans l'industrie. C'est en train de changer. Depuis 2018-2019, beaucoup plus d'entreprises industrielles et de services qui font de l'apprentissage, qui découvrent, puisque justement c'est pas forcément dans leur culture au départ, donc qui découvrent les les tenants et les aboutissants. Hein, c'est pas toujours très très facile d'accompagner un apprenti pour à la fois développer ses compétences et l'accompagner vers un diplôme. C'est vraiment une mission que l'entreprise doit avoir. Alors c'est presque une mission, de service public, hein, parce que elle accompagne des jeunes dans le développement de leurs compétences et de leur avenir professionnel. Donc c'est extrêmement noble, c'est très bien. Nous, centre de formation, on ne sait pas former tout seul. Si l'entreprise n'est pas là, on ne sait pas faire. Et globalement, je trouve que les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, globalement, jouent bien le jeu, s'investissent. Alors on peut toujours donner des contre-exemples, hein, d'entreprises qui font pas les choses correctement en matière d'apprentissage, mais on a tellement de beaux témoignages d'entreprises qui s'investissent pour s'assurer que l'apprenti, le petit apprenti ou la petite apprentie qui est chez eux va réussir et rester dans l'entreprise éventuellement, puisque ça fait partie potentiellement de l'objectif.
Un dernier point que je trouvais intéressant d'aborder, il nous reste un petit quart d'heure dans le cadre de notre émission, c'est l'évolution autour du monde de la formation professionnelle. Je vous entendais pendant la pause musicale, vous discutiez un petit peu justement de certaines lois qui peuvent passer ou des contraintes des gouvernements, de l'État sur cette question, ce domaine de la formation. Alors, est-ce que c'est un domaine qui évolue suffisamment bien, qui reste à la pointe un peu des évolutions professionnelles ou pas? Est-ce que ça a besoin de 109 au niveau de ces offres de formation?
Alors oui, bien sûr, la formation évolue en même temps que les évolutions techniques, technologiques, les innovations des secteurs. Par exemple, en esthétique, on parle d'esthétique haute technologie. Hein, avec l'utilisation de la thermocavitation, par exemple des ondes, de la cryo, il y a énormément de la lumière pulsée, etc. Donc oui, on est obligé de suivre ces évolutions dans l'automobile aussi, hein, avec les voitures thermiques, électriques, hybrides. Donc on se doit d'être bien sûr à la pointe dans nos ateliers, à la pointe de cette technologie, d'avoir les équipements qu'il faut. Et donc avec la loi pour choisir son avenir professionnel de 2018, eh bien les choses ont un petit peu changé, puisque avant, donc on était financé par la région. La région donnait, il y avait un dialogue budgétaire et donc on recevait une subvention de la région. Maintenant, donc un apprenti, une formation, un coût contrat, donc ça nous donne notre chiffre d'affaires. Et là-dessus, on doit aussi faire nos investissements. Voilà, on doit payer bien sûr les équipements, la matière d'œuvre, les investissements. Alors on est un petit peu aidé aussi par la région et par les OPCO. Ceci dit, voilà, si on veut continuer à avoir bien sûr des plateaux techniques qui correspondent aux besoins du secteur, aux évolutions du secteur, il faut qu'on puisse continuer à investir, donc à acheter du matériel, peut-être à s'agrandir également. Or, depuis 2 ans, nous avons subi des baisses concernant les coûts contrats, ces niveaux de prise en charge, 2 baisses successives. Et par exemple, je prends l'exemple du CAP cuisine. Il y a 2 ans, pour un CAP cuisine, c'était 2 800 euros. Maintenant, c'est 5 888 euros. Donc on a perdu 27%. Donc ça devient de plus en plus difficile parce que la matière d'œuvre aussi a augmenté, les fluides, l'électricité, bien sûr le coût des équipements. Donc voilà, maintenant on se retrouve quand même confronté à une difficulté, c'est-à-dire, comme disait Thomas Viron, hein, la formation est gratuite mais elle a un coût, de couvrir nos coûts. Donc on a un enjeu maintenant concernant l'analyse, hein, de la rentabilité de nos formations.
Mmh. Oui, on peut se permettre d'être un peu critique du système là. L'exercice qui a été fait, il y avait un objectif, c'était d'atteindre le million d'apprentis. Bon, on n'en est pas loin, c'est un objectif quantitatif, c'est très bien. Mais ça passait par une double action un peu compliquée à mettre en place. C'est on libéralise totalement le système de formation. Donc on rentre vraiment dans un système comme si c'était un bien de consommation hein, en termes de vente. Et en même temps, on le régule financièrement. Donc c'est l'un ou l'autre. Faire les deux, c'est pas schizophrène, mais un petit peu tout de même. Effectivement, là, on s'est vu, donc, on a vu nos niveaux de prise en charge baisser de 27% ou même de 15%. Il faut s'imaginer que vous vendez un produit, ok, de grande consommation sur le marché, libéré, et à un moment donné, l'État vous dit ah ben tout compte fait, non, vous allez pas le vendre à ce prix-là, vous allez baisser votre prix de vente de 15%. Tous les chefs d'entreprise ou même tous les consommateurs comprendront ça. C'est extrêmement compliqué à gérer. Extrêmement compliqué. Et très très rare d'ailleurs. Je pense que c'est le seul exemple qu'on ait en France, en tout cas, peut-être même en Europe. Donc ça pose des difficultés aujourd'hui d'équilibre financier des centres de formation. Alors il y aura peut-être d'autres options. De réguler autrement les prix de vente. Hein. Je suis désolé d'appeler ça un prix de vente, mais ça y ressemble étrangement quand même. Donc ça, on espère qu'il y aura des évolutions dans ce sens-là au niveau financier, parce que si on veut continuer à développer l'apprentissage, notamment sur les premiers et deuxièmes niveaux de qualification, il faut faire évoluer, comme le disait Catherine Monnier, l'outil, parce que les technologies évoluent, etc. Donc on a vraiment besoin de faire évoluer les plateaux techniques, les laboratoires, etc. Faut continuer à payer les enseignants, les collaborateurs qui travaillent dans les centres de formation d'apprentis dans de bonnes conditions. Tout ça, ça tend le système. Et il y a vraiment un risque que certains CFA n'arrivent plus du tout à financer leur activité. Ça sera clairement au détriment des apprentis et des entreprises.
Mmh. Alors, est-ce que c'est là la clé alors de l'avenir de la formation professionnelle en France, un retour vers des financements quand même, moins de contraintes financières sur les CFA comme vous venez de le dire.
En fait, il faudrait que le niveau de prise en charge, le coût contrat, tienne compte de la matière d'œuvre. Par exemple, dans nos métiers de l'artisanat, que ce soit en cuisine ou en automobile, chocolatier voilà.
Chocolat qui prend 50%.
Voilà, il faut qu'on puisse absorber l'augmentation de la matière d'œuvre, notamment alimentaire ou même en carrosserie, ça coûte très cher aussi. Qu'on puisse aussi, comme l'a dit Thomas, payer nos collaborateurs, hein, parce qu'ils font du super boulot. Et voilà. Et donc, par contre, ce qui est dommage, c'est que l'argent de l'État devait aller au niveau CAP, infrabac et bac. Or, il n'y a que 37% qui sont allés sur ces niveaux-là, et le reste sur du supérieur ou du tertiaire. Alors, c'est très bien que le supérieur puisse bénéficier de l'apprentissage. Ceci dit, parce que ça redore aussi l'image de l'apprentissage qui avant était un peu pour les jeunes qui avaient des difficultés. Maintenant, en école de commerce, école d'ingénieur ou en faculté, on peut faire de l'apprentissage et c'est très bien. Toutefois, ça se fait malheureusement au détriment des niveaux bac et infrabac comme le CAP. Or, c'est là où les jeunes ont le plus besoin de décrocher leur diplôme et d'avoir une expérience.
Mais ça s'est déséquilibré. Il y a eu un effet balancier, mais assez violent, hein, et en assez peu de temps. Donc ce qu'on peut espérer pour l'avenir, c'est que ça s'équilibre, c'est-à-dire que les premiers niveaux et deuxième niveau de qualification, qui sont ceux qui apportent les meilleurs résultats, je parlais de valeur ajoutée un peu plus tôt, les meilleurs résultats en termes d'insertion professionnelle. C'est quand même un vrai sujet, l'insertion professionnelle. On se forme pas pour se former, on se forme pour un emploi. C'est là où les résultats sont les meilleurs, donc c'est là, normalement, qu'on devrait mettre la priorité. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, parce que le système a été totalement dérégulé, donc chacun fait un peu comme il veut. Le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui, donc on peut espérer que ça se rééquilibre assez rapidement.
Ben, on arrive au terme de notre émission. Merci à tous les deux d'avoir participé et nous avoir donné toutes ces informations. Il ne reste plus qu'à rappeler que pour tous ceux qui s'intéressent ou qui auront un besoin de formation, eh bien, allez voir ce que la Chambre des métiers de l'artisanat, que ce soit à Bourgoin-Jallieu ou à Grenoble, peut vous proposer, en commençant par le site web, évidemment. Oui. Pareil pour la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Alors, il y a un site pour la CCI et un site pour le campus de l'alternance.
Pour le campus de l'alternance, oui. Mais si vous allez sur le site de la CCI, vous trouverez, bien sûr, à la fois CCI formation, pour la formation continue en entreprise et pour les demandeurs d'emploi, et la partie campus de l'alternance. Et pour l'alternance, l'apprentissage, je le dis en autre nom, nous deux, c'est le bon moment. C'est là, on est en ce qu'on appelle, nous, en pleine campagne. C'est les décisions et les signatures de contrats vont se faire entre maintenant et le mois de juillet.
Eh ben voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous qui nous écoutez et qui vous intéressez à une information, j'allais dire, à une formation. En tout cas, allez chercher de l'info sur ce milieu de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Voilà, donc La Voix de l'Emploi, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions avec Catherine Meunier, directrice formation pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgoin-Jallieu, et Thomas Viron, directeur groupe formation pour la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et directeur du campus de l'alternance. Merci encore une fois à tous les deux.
Merci.
Moi, je
Merci
vous donne beaucoup. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle Voix de l'Emploi sur News FM. D'ici là, très bon après-midi à toutes et tous. Retour de la musique tout de suite, le meilleur de la programmation News FM sur le 101.2. Et puis, à 16h, c'est Sana, bien sûr, que vous retrouverez pour la reprise du direct avec le 16-19 avec Sana. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.